qui aujourd'hui sont gratuits ou quasi gratuits. L'exemple le plus frappant, c'est l'éducation nationale. Il faudrait que chacun imagine que sans impôts, il faudrait, lorsqu'on envoie ses enfants à l'école, au collège, au lycée, etc., payer le salaire des profs, payer les biens immobiliers dans lesquels sont installées les écoles, etc. Et il y a un calcul qui a été fait par l'OCDE, donc l'OCDE, c'est pas non plus un ramassis de gauchistes. Une année de scolarité au collège, c'est 8000 euros. Voilà. Une année de scolarité à l'école, c'est 5000 euros. Et donc, plus on avance dans les études, plus c'est cher. Qui peut envoyer ses enfants à fac? C'est ça la vraie question. Et on pourrait multiplier le raisonnement sur la santé, sur les routes. Une société privatisée, il faudrait payer les péages à tous les coins de rue, parce qu'il y aurait, selon les communes, etc., ça serait l'entreprise qui gère la route, etc. Donc c'est une société invivable. En clair, c'est même pas une société.
Parce que alors, pour réduire les inégalités, est-ce que ça marche? Est-ce que l'impôt réduit les inégalités ou pas?
Alors, lorsqu'on prend les 20% les plus riches par rapport aux 20% les plus pauvres, avant impôt, eh bien, les 20% les plus riches gagnent un peu plus de 8 fois plus que les 20% les plus pauvres. Après impôt, comme c'est plus redistributif, c'est 7,6 fois.
Avant impôt, les 20% les plus riches gagnent 8 fois plus que les 20% les plus pauvres. Après impôt, c'est 7,6. Oui. Bon, donc c'est presque pareil. Il n'y a pas grande différence entre 8, quelque chose et 7,6. L'impôt, là, il n'est pas très redistributif.
Eh bien, voilà. Là, on voit que comme les inégalités après impôt sont finalement assez peu réduites, ça montre que le système fiscal n'est pas assez progressif. Les cotisations sociales, elles, contribuent vraiment à réduire les inégalités parce que l'écart, à ce moment-là, passe de 7,6 à 5. Toutes les cotisations sociales patronales et salariales vont aux caisses de sécurité sociale et ça finance les retraites. Quand on va chez le médecin, on se fait rembourser. Donc toute cette redistribution sociale, en espèces, elle contribue à réduire les inégalités parce que ça veut dire qu'on peut aller se faire soigner sans avoir la trouille, finalement qu'on n'en soit que de son porte-monnaie. Il y a une part quand même qui est remboursée par la sécurité sociale. On peut prendre sa retraite en disant « je n'aurai pas à vendre ma maison pour me financer la retraite, j'aurai une retraite ». Et donc toute cette redistribution monétaire, elle corrige les inégalités et donc l'écart entre les 20% les plus riches, les 20% les plus pauvres, qui étaient de 8,1 avant impôt, de 7,6 après impôt, redescend à 5 après ce qu'on appelle les transferts sociaux, et donc les retraites, les remboursements de frais de santé, etc. Et puis il y a aussi une chose, tout à l'heure on évoquait l'éducation nationale, les services publics gratuits, c'est intéressant parce que ça permet à tout le monde d'en bénéficier. Donc,
par exemple, c'est quoi alors les services publics gratuits?
Les services publics gratuits ou quasi gratuits, c'est l'école. L'école, par exemple.
Les bibliothèques municipales, la piscine, tout ça.
Les bibliothèques, la piscine, souvent on paye quelque chose, mais on paye rien par rapport au réel coût. C'est financé par les collectivités locales. Et lorsqu'on intègre tous ces services publics nationaux ou locaux, eh bien, ça aussi, ça joue un effet redistributif. Et l'écart entre les 20% les plus riches et les plus pauvres se réduit à 3,2.
Donc, avant impôts, avant transferts sociaux, avant financement des services publics, on est dans un écart de 1 à 8 en termes de revenus entre les 20% les plus riches et les 20% les plus pauvres. Les 20% les plus riches gagnent en moyenne 8 fois plus que les 20% les plus pauvres. Et après impôts, après transferts sociaux, après financement des services publics, de la piscine, de la bibliothèque, de l'école et ainsi de suite, on est dans un rapport de 1 à 3.
Vous êtes bien sur la messagerie vocale de Dominique Payet. Merci de me laisser un message avec vos coordonnées si vous voulez que je vous rappelle très rapidement.
Après votre message, faites le 1 pour plus d'options.
Oui, bonjour monsieur le porte-parole de l'UMP. Je suis François Ruffin, journaliste à France Inter. Je prépare un sujet sur les impôts. Là, j'ai lu une donnée par le président du Cercle des fiscalistes qui annonce que en France, suite aux réformes du droit de succession, à la quasi-suppression de l'impôt sur les successions, 1 euro hérité est 3 fois moins taxé qu'un euro travaillé, je le cite. 1 euro hérité est 3 fois moins taxé qu'un euro travaillé. Donc j'aurais voulu avoir votre réaction sur cette donnée, sachant que le slogan de Nicolas Sarkozy était « Travailler plus pour gagner plus ». Est-ce que ça serait « Hériter plus pour gagner plus » Voilà. Eh bien, écoutez, si vous pouvez me rappeler, je vous remercie beaucoup, monsieur Payet. Voilà, bon après-midi, au revoir.
Bon, il va sans doute rappeler le porte-parole de l'UMP, à n'en pas douter. En attendant, on va rencontrer Thomas Piketty, qui est un économiste et qui a beaucoup travaillé sur les impôts, tout simplement.
Alors, Thomas Piketty, attendez, où est-ce que j'ai mis mon bouquin ? Je suis en train de lire la biographie de Joseph Caillaux,
ah oui.
Le ministre des Finances qui a porté
sur les fonds baptismaux, l'impôt sur le revenu. Ce que je découvre,